Bien, Jean-Bernard Leroy, je continue avec un peu de retard. Je voulais vous parler pour le 15, mais des circonstances extérieures ont fait en sorte que je ne l'ai pas pu. J'étais frappé par un article paru sur l'Homme Nouveau du 29 mars dernier sur le principe de subsidiarité. J'ai lu que, d'après l'Église, l'exigence de protéger et de promouvoir les expressions originelles de la socialité est souligné par l'Église dans l'encyclique Quadragesimo Anno, où l'on peut lire, de même qu'on ne peut enlever aux particuliers pour les transférer à la communauté les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social que de retirer aux groupements d'ordre inférieur, pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé, les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. L'objet naturel de toute intervention en matière sociale est d'aider les membres du corps social et non pas de les détruire ni de les absorber. Et par comparaison, on a ce que dit l'Union européenne. En vertu du principe de subsidiarité, l'Union intervient seulement si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional ou local, mais peuvent l'être mieux en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée au niveau de l'Union. C'est donc l'Union qui décide. Les constitutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure du protocole. Si bien que, on s'aperçoit qu'en réalité, sous le couvert d'un mot identique, la doctrine sociale de l'Église et le pouvoir séculier actuel désignent des procédés diamétralement opposés. Dans le premier cas, l'autorité supérieure n'intervient que lorsque l'étage inférieur le demande. On a bien une autorité prête à venir au secours du niveau inférieur. Et dans le deuxième cas, le pouvoir décide de se substituer à l'étage inférieur dès qu'il estime que c'est nécessaire. C'est un pouvoir qui décide arbitrairement le domaine de son action. Plus que jamais, on s'aperçoit que Satan est le singe de Dieu. On pourra tenter de remplacer le terme arbitrairement par le terme démocratiquement, avant de constater que les deux termes sont synonymes, car l'opinion démocratique est le résultat d'une propagande aux mains d'une oligarchie, d'une main d'une puissance politique ou d'une puissance financière, bien souvent liées l'une à l'autre et aussi arbitraires l'une que l'autre, dans le sens où la vérité n'a rien à voir avec leurs affirmations. On le voit bien actuellement avec les propagandes contre les OMG, contre l'incinération, contre le nucléaire, qui n'ont d'autre fondement que de s'assurer un fonds de commerce, que de pouvoir se faire entendre et tirer la gloire à soi et les papiers, les journaux, aussi menteurs les uns que les autres. J'ai donné comme exemple de constater l'évolution de l'opinion, comme on dit, concernant le tramway, qui était jugé complètement désuet et dépassé en 1910 et qui maintenant est prisé comme le dernier cri du progrès, ou de la voiture, symbole de la libération du prolétaire en 1950, qui est devenue l'ennemi public moins de 60 ans plus tard. Je ne parlerai pas de considérations alimentaires. La phrase de notre Seigneur « Vous êtes le sel de la terre » serait sévèrement condamnée aujourd'hui. On nous répète qu'il faut éviter le sel à tout prix. Peut-on revenir sur ce principe au sujet de deux dimensions essentielles de l'homme au niveau quotidien, la famille et le travail? Pour la famille, Paul VI, dans son encyclique trop souvent laissé à l'écart, dont le nom est Gravissimum Educationis Monumentum, rappelait que la famille était la première école des vertus sociales, celle où l'homme reçoit les premières notions déterminantes concernant la vérité et le bien. On conçoit la fureur des sociétés totalitaires qui veulent avoir la mainmise sur l'esprit des enfants pour mieux les formater, comme on dit actuellement, et en vue de leur inculquer des valeurs démocratiques, républicaines ou autres, qui correspondent à leurs utopies. C'est pour ça qu'on les qualifie de nom très bien. On les qualifie leurs utopies, en particulier de celles qui ravalent la vérité à une doctrine venue d'un pouvoir autoritaire, valeur républicaine, ou un relativisme absolu. Je suis libre de choisir ce que je veux, dans le domaine pratique comme dans le domaine moral. L'homme est maître de l'univers et peut agir comme il l'entend, à la rigueur sous réserve du respect de lois qui ne viennent que de lui-même. Les anglo-saxons sont experts dans l'art de tricher en respectant les lois, grâce par exemple à des contrats rédigés sans ponctuation, dont l'interprétation est laissée à l'habileté des cabinets d'avocats grassement rémunérés. Tous ces braves gens agissent comme s'ils étaient souvent maîtres de leur nature, voire auteurs de leur nature, en oubliant qu'il leur faut bien de temps en temps aller aux toilettes, qu'ils le veuillent ou non. Notre époque aurait bien besoin d'un Rabelais. Jean-Paul II a rappelé dans son encyclique Familiaris Consortio que la société et l'État doivent reconnaître que la famille est une société jouissant d'un droit propre et primordial, et que l'État ne doit pas enlever aux familles les tâches qu'elles peuvent fort bien accomplir en s'associant librement avec d'autres familles. Paul VI avait déjà dit que l'État doit répartir l'aide des fonds publics de telle sorte que les parents puissent jouir d'une authentique liberté dans le choix de l'école de leurs enfants, selon leur conscience. Jean-Paul II a ajouté « Les lois et institutions de l'État doivent s'abstenir de blesser les droits et devoirs de la famille, mais au contraire les soutenir et les protéger positivement. » Ce n'est donc pas l'avis d'un pape pris au hasard, c'est une constante dans la doctrine de l'Église. Cela va évidemment à l'encontre de ceux qui prônent le libre accès des jeunes à toutes les activités électroniques, pornographiques ou autres, et à ceux qui constatent, comme Khrouchtchev, nous avons été vaincus par les grands-mères. La famille serait-elle le dernier rempart de la vérité de l'Église et de l'amour de Dieu pour les hommes? Concernant le travail, il faut rappeler que le travail est constitutif de l'homme et exprime sa dignité, en transformant la nature en vue du bien commun. Et là aussi, tous les papes sont d'accord. Jean-Paul II a rappelé la priorité du travail sur le capital. Le travail est une cause efficace alors que le capital reste un instrument. Il faut dire et répéter que si la richesse est un bien, elle est un bien dangereux, en ce sens qu'elle peut accaparer l'homme et le détourner des biens essentiels. De toute façon, Saint Paul a rappelé que nous n'étions pas propriétaires, mais seulement les intendants des biens qui nous ont été confiés. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit légitime de les confier à des particuliers, et pas de les confisquer aux produits soi-disant de l'État, en réalité d'une oligarchie toute-puissante et irresponsable. L'homme ne peut être ramené à ses richesses. L'homme est bien plus qu'un tube digestif doublé d'un organe sexuel. De même, il faut rappeler que le but d'une entreprise n'est pas de gagner de l'argent, bien que ce soit pour elle une nécessité, comme pour l'homme le boire et le manger. Le but de l'entreprise est de rendre un service. Le fondateur de Michelin le disait, produire le meilleur pneu au meilleur prix. Faute de reconnaître cela, on aboutit à des organisations uniquement spéculatives, comme paraissent l'être, celles qui, avec leurs ordinateurs, triturent des milliards de dollars ou d'euros pour tenter de créer des richesses dont la réalité à long terme paraît pour le moins douteuse. Jean-Paul II a rappelé la priorité du travail sur le capital en opposition avec la fraction du libéralisme qui assure que l'initiative économique appartient aux seuls possesseurs de capitaux et par opposition au marxisme pour lequel le travail est purement et simplement une aliénation. Comme sujet du travail, quel que soit le travail, l'homme et lui seul est une personne. Cela dit, la doctrine a des conséquences dans trois directions principales. La propriété, qui est un droit fondamental, car elle assure à l'homme une part de liberté, surtout sur le plan familial. L'Église, depuis Léon XIII, a toujours encouragé les propositions visant à faire participer les travailleurs au capital de l'entreprise, et non de spolier tout le monde, d'en transférer toute propriété à l'État ou à une oligarchie financière toute puissante et par là irresponsable. Le juste salaire, Jean-Paul II l'a rappelé plusieurs fois, il existe un juste salaire qui doit assurer à l'ouvrier sobre et honnête, comme on disait du temps de Léon XIII, d'assurer la vie de sa famille d'une manière correcte. Correct, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Quel est le luxe? Le luxe, c'est ce qu'on a et que les autres n'ont pas. Il est certain que du temps de Louis XIV, pouvoir claquer des doigts pour que des serviteurs vous amènent une baignoire d'eau chaude dans laquelle on pourrait se laver était un luxe. Mais maintenant, il est interdit de louer un appartement s'il n'y a pas au moins une douche et l'eau courante. Donc, autrement dit, cette notion évolue. Mais il faut que l'ouvrier, l'humble travailleur puisse avoir une vie décente qui lui permette d'élever sa famille dans la dignité. Et la priorité sur le capital, l'entreprise étant considérée comme le bien des travailleurs et des clients, et non l'augmentation des profits. Alors, tu as trop froid, je suis quelqu'un, mais que vont dire les actionnaires? J'avoue que personnellement, quand j'étais en service, les actionnaires, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Ce qui m'intéressait, c'était que les clients, c'est-à-dire la brave femme qui attendait son eau, ou les braves gens qui attendaient qu'on épure leurs eaux usées ou qu'on ramasse leurs ordures, aient satisfaction et puis vivent convenablement. Surplus, si on m'avait dit oui, il faut faire ça à cause des actionnaires, dites-le au brave ouvrier, il est capable de se réveiller à 2 heures du matin pour que la petite vieille du dessus puisse se laver les dents, mais pour que les actionnaires puissent avoir 3 sous de plus, il les enverra promener. Sauf si on le force à travailler, à ce moment-là, tant pis pour les grèves sauvages. Adopter le processus du travail productif aux modalités de l'existence, en particulier des mères de famille, leur laissant le choix possible entre travailler ou élever ses enfants. Ce n'est pas pour autant que le capitalisme doit être diabolisé, comme l'a dit Jean-Paul II. Je terminerai par quelques phrases de Jean-Paul II à ce sujet. Mais l'ambivalence, nous les retrouvons dans l'énoncé des mérites et des défauts du marché. Il semble que, à l'intérieur de chaque pays, le marché libre soit l'instrument le plus approprié pour répartir les ressources et répondre efficacement aux besoins. Centesimus annus. Les mécanismes du marché présentent des avantages solides. Entre autres, ils aident à mieux utiliser les ressources, ils favorisent les échanges de produits et surtout, ils placent au centre la volonté et les préférences de la personne qui, dans un contrat, rencontre celle d'une autre personne. Ce que dit le pape. Toutefois, ajoute-t-il, il y a le risque d'une idolâtrie du marché qui ignore l'existence des biens qui, par leur nature, ne sont et ne peuvent être de simples marchandises. Il y a des besoins collectifs et quantitatifs, qui concernent notamment la morale, qui ne peuvent être satisfaits par ces mécanismes. Il y a des nécessités humaines importantes qui échappent à la logique du marché. Il y a des biens qui, en raison de leur nature, ne peuvent ni ne doivent être vendus ou achetés. On n'a pas le droit de vendre sa petite fille à la prostitution. L'Église reconnaît le rôle pertinent du profit comme indicateur du bon fonctionnement de l'entreprise. Quand une entreprise a un profit, cela signifie que les facteurs productifs ont été dûment utilisés et les besoins humains correspondants convenablement satisfaits. Cependant, le profit n'est pas le seul indicateur de l'état de l'entreprise. Il peut arriver que les comptes économiques soient satisfaisants et qu'en même temps les hommes qui constituent le patrimoine le plus précieux de l'entreprise soient humiliés et offensés dans leur dignité. Non seulement cela est moralement inadmissible, mais cela ne peut pas ne pas entraîner par la suite des conséquences négatives, même pour l'efficacité économique de l'entreprise. Je voudrais terminer par une considération sur ce qu'est un milliard. Un milliard, on n'entend pas un milliard ou un million. Eh bien voilà, il faut 10 gouttes d'eau pour faire 1 millilitre. 1000 gouttes d'eau représentent donc 1/10 de litre. 1 million de gouttes d'eau représente donc 1/10 de mètre cube, soit 100 litres. C'est un gros plein d'essence. 1 milliard de gouttes d'eau, ça va représenter 100 mètres cubes, c'est-à-dire le contenu d'une piscine de 4 mètres sur 20 mètres sur 1 mètre ou 2 de profondeur. On voit la différence entre un plein d'essence et une piscine. Une seconde, on sait ce que c'est. 100 secondes, là, c'est 1 minute et demie. 1000 secondes, c'est donc 1/4 d'heure. 1 million, ça représente 1/4 d'heure, ça représente environ 25 jours. 1 milliard de secondes, ça représente 30 ans. 25 jours que multiplie 1000, ça fait 30 ans. Par conséquent, on voit la différence entre 1000 secondes, à peine 1/4 d'heure, et 1 milliard de secondes, 30 ans. Il ne faut pas se laisser embobiner par les chiffres. Voilà,